Bonjour Stanislas.
Bonjour Pascal.
Et bonjour à tous les internautes qui viennent consulter ce cours MVA consacré à une introduction à Windows Intune. Dans ce premier module, donc ce module 1, on va d'abord regarder la gestion des périphériques mobiles, ou comme on dit en anglais le MDM, Mobile Device Management, ce dont il s'agit, quelles sont les fonctionnalités et surtout quelles sont les solutions Microsoft dans ce cadre-là, dans le cadre du MDM, et comment elles s'articulent et où Windows Intune va prendre sa place dans ce cadre-là. On verra ensuite dans un second module les fonctionnalités spécifiques à Windows Intune et comment il va nous aider à mettre en œuvre cette gestion des périphériques mobiles. Donc, vous voyez ici sur la slide du titre donc nos noms, nos titres et surtout nos adresses Twitter. Si jamais vous voulez nous poser des questions.
Ou interagir avec nous.
Tout à fait. Donc, Esquastana pour Stanislas, Pessolière pour moi et MS Virt Academy pour l'alias standard de Microsoft Virtual Academy. Donc pour commencer, qu'est-ce que le MDM ? Première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a des utilisateurs dans les entreprises et que ces utilisateurs, ils ont des besoins. Et notamment, et c'est pas une porte ouverte qu'on enfonce, hein, c'est une réalité qu'on rencontre tous les jours sur le terrain, c'est que ces utilisateurs, ils s'attendent à pouvoir utiliser n'importe quel périphérique, n'importe où, pour faire leur travail. On est d'accord.
On peut dire que c'est effectivement un bon résumé de ce que font les gens aujourd'hui en utilisant des périphériques personnels, mais dans un cadre qui n'est pas toujours personnel, dans un cadre professionnel parfois.
Et donc à propos de ces périphériques, on peut dire que l'explosion de ces périphériques, alors là j'ai des téléphones, je ne sais pas si on les voit à la vidéo, mais des téléphones, des tablettes dans tous les sens, de différentes tailles et différents fournisseurs, et c'est l'explosion donc de ces périphériques remet en cause en fait tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, jusqu'à quelques années. Hein, l'IT pouvait dire voilà, j'ai deux modèles standards de PC et puis vous vous débrouillez avec ces deux PC et ce modèle de téléphone pour votre travail. Maintenant, c'est plus le cas, il faut prendre en compte donc cette diversité de mobiles. Sur ces mobiles, donc, on veut exécuter des applications et ces applications, du moment qu'on veut donner accès à des applications d'entreprise, des applications métiers sur différents système, alors ça peut être du Windows Phone, du Windows, mais ça peut être d'autres OS, ça peut être de l'Android ou de l'iOS, ça commence à se complexifier également au niveau de la gestion de ces applications. Et puis, dernier souci, si on utilise des applications sur des périphériques, c'est évidemment pour travailler sur des données qui concernent notre travail, et ces données de travail sont en général des données un peu sensibles vis-à-vis de l'entreprise. L'entreprise n'a pas envie de retrouver ces données internes sur des périphériques qui seraient volées ou qui seraient égarées dans la nature.
Le plus gros problème finalement pour les administrateurs ou les responsables sécurité, c'est de ne pas savoir où et quoi, et de ne pas savoir si un vol de périphériques et donc des données contenues dans le périphérique a été fait. Si l'utilisateur utilisait historiquement un PC de l'IT interne, quand le PC était volé, en général, l'utilisateur allait voir son informatique et disait ben, « mon PC a été volé ». Du coup, la sécurité était au courant de ce qui avait pu être volé potentiellement. Alors quand l'utilisateur se fait voler son téléphone personnel ou sa tablette personnelle, ou une clé USB qui contiendrait des données d'entreprise, il ne va pas aller forcément voir son IT pour dire « je me suis fait voler mon téléphone personnel ». Par contre, les données de l'entreprise, elles sont parties.
Exactement. Donc face à ces besoins, on a une solution basée sur trois concepts, trois grandes idées qu'on va détailler un petit peu par la suite. Donc la première, Stanislas.
Alors, libérer les utilisateurs, effectivement, les utilisateurs ont été outragés, ils ont été brisés, martyrisés. Mais l'utilisateur désormais est libéré par lui-même. Et libéré également par son IT, en fait, grâce au concours justement de ces fameuses solutions de MDM et l'acceptation du Bring Your Own Device. Donc l'idée, effectivement, c'est de ne pas chercher à brider l'utilisateur sur le fait qu'il utilise des périphériques qui ne sont pas forcément à l'entreprise. Donc je pense au téléphone, au smartphone principalement, mais également aux tablettes. Et c'est de finalement lui permettre quand même d'accéder aux ressources de l'entreprise. Le tout d'une manière plutôt assez homogène ou cohérente, quel que soit le type de périphérique qu'il va utiliser. De lui permettre également, parce qu'on va le libérer dans son usage, de lui donner la possibilité d'enregistrer dans ce qu'on appelle enrôler, donc de manière assez simplifiée, ses équipements personnels ou d'entreprise, mais là on pense plus au personnel, dans un système que l'entreprise maîtrisera en partie. Et puis, ben, également, pour libérer cet utilisateur vis-à-vis de son travail et des applications, il faut également mettre en œuvre ou avoir une stratégie sur la partie synchronisation des données de l'entreprise sur ses équipements. Et puis, en général, qui dit données, dit sécurité. Et là, on attaque le deuxième pilier, qui est le grand nerf de la guerre. C'est comment protéger finalement les données des organisations qui ne sont pas forcément sur des périphériques maîtrisées, données fournies par les organisations. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir protéger ces informations si le périphérique est volé ou simplement si le collaborateur quitte l'entreprise. Et donc, d'être capable de manière sélective, par exemple, de supprimer les applications métiers d'entreprise installées sur un périphérique personnel ou les données d'entreprise qui sont là encore sur ce périphérique personnel, perdues ou retirées parce que l'utilisateur a quitté l'entreprise. Pareil, on a plein de périphériques, on ne va pas démultiplier les identités. Ça fait des années qu'on cherche à consolider les annuaires. Donc là encore, l'idée, c'est d'avoir pour l'utilisateur, quels que soient les endroits où il va se connecter, c'est-à-dire quels que soient les périphériques, une même identité qui soit commune. Qu'il se connecte à des ressources internes de l'entreprise ou à des ressources de l'entreprise qui sont externalisées sur des solutions telles que du cloud computing, par exemple, public. Dernier point, ce qui est relativement super important pour les informatiques et la sécurité en général des entreprises, c'est de savoir qui a quoi. Un utilisateur lambda peut avoir effectivement un PC personnel, mais il peut avoir une tablette personnelle, un smartphone personnel qui vont venir enrichir son nombre d'équipements pour pouvoir travailler. Même si le smartphone personnel ou la tablette personnelle ne sont pas une propriété de l'entreprise, c'est quand même intéressant que l'entreprise sache que tel utilisateur a tant de périphériques et un tablette, un smartphone, etc. Donc au moins associer à l'utilisateur en fait, des objets, des appareils.
Tout à fait.
Et côté des admins, Pascal ?
Et côté des administrateurs également, eux, on ne les oublie pas. Hein. L'idée est donc, en venant ajouter toute cette masse de périphériques mobiles en général, hein, entreprise ou personnel, à l'environnement de l'administrateur, il va falloir lui permettre de gérer tout ça, mais d'une façon pas trop traumatisante, disons. L'administrateur a l'habitude d'utiliser certains outils, donc on va faire en sorte qu'il utilise toujours les mêmes outils pour aller gérer ce nouvel ensemble de périphériques. Donc l'idée, c'est qu'il ait une seule console, celle qu'il connaît actuellement. Donc entre nous, ça va être SCCM, qu'il connaît bien depuis des années, et va pouvoir gérer avec cette même console à la fois les périphériques internes et les périphériques mobiles. Une gestion des applications simplifiée également centrée sur les utilisateurs, donc ça c'est quelque chose de nécessaire. Il va falloir qu'on puisse dire voilà, cette application, je veux la fournir à tel ensemble d'utilisateurs, tel groupe d'utilisateurs, quelle que soit leur source, le périphérique ou la façon dont ils utilisent leur périphérique.
Par exemple, dire les membres du groupe RH ont le droit d'accéder sur leurs différents équipements à l'application des ressources humaines pour telle ou telle partie.
Donc, évidemment, il y aura certains cas où ils auront l'application sur leur poste, mais d'autres cas, par exemple si c'est un iPad, où ils devront passer par une autre solution de type bureau à distance pour accéder à l'application. Et puis enfin, d'autres paramètres qui sont qui ont longtemps été un petit peu compliqués à gérer, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de certificats, de VPN, de connexion Wi-Fi, etc. Comment faire en sorte que automatiquement l'utilisateur se retrouve ses profils VPN, Wi-Fi, certificats pour bien gérer sa vie professionnelle.
Donc là, on parle vraiment de profils de connexion pour éviter effectivement que l'utilisateur ait à bricoler une connexion VPN, à la reparamétrer tout seul sur son équipement personnel, voilà. D'être capable de lui pousser en fait ces éléments de configuration qui sont packagés en fait par l'IT.
Voilà, même s'il décide d'utiliser un iPad par exemple, on va se débrouiller pour configurer pour lui son Wi-Fi, son mail également peut-être, etc.
Donc, aider l'IT à libérer les utilisateurs, hein, utilisateurs qui ont été bafoués longtemps, hein, ou plutôt restreints pendant de longues années à avoir des PC d'un modèle donné, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'utilisateur, il n'y a pas à se poser la question, il utilise plusieurs périphériques souvent, il a effectivement souvent toujours le PC traditionnel fourni par l'informatique interne, il vient de se coupler effectivement d'autres choses, le smartphone ou la tablette, voire des PC qui sont des PC mais non Windows comme du Mac OS X par exemple, Mac OS 10. Et donc il va falloir pouvoir gérer tout ça. Alors historiquement, donc on parlait tout à l'heure d'identité. on va pouvoir, les utilisateurs vont pouvoir plutôt enregistrer ces périphériques pour faire du single sign-on et surtout accéder en fait aux données de l'entreprise. Donc une des nouveautés qu'on a apportées à partir de Windows R 2012 s'appelle le Workplace Join.
R2, je crois même.
Exactement. Qui permet effectivement à un utilisateur d'enregistrer un objet dans l'Active Directory correspondant à un équipement. Ce n'est pas mettre la machine membre du domaine, c'est créer un objet qui dit ben, « moi, utilisateur X, j'ai tel appareil et je l'enregistre dans l'Active Directory pour que mon IT la connaisse et du coup, mon IT me permette d'accéder à certaines données ou applications à partir de l'identité en fait de cet appareil. » Donc, du coup, avec deux solutions d'administration qui en fait sont très couplées, on va le voir par la suite, que sont Microsoft System Center, donc Configuration Manager, ex-SMS pour les plus anciens d'entre nous, couplé le tout avec un service de cloud computing de type Software as a Service, donc Windows Intune. Donc les deux solutions combinées ensemble et travaillant ensemble vont vous permettre en fait de faire en sorte que les utilisateurs vont pouvoir travailler désormais depuis n'importe quel appareil, donc les appareils d'entreprise et les personnels qui ont été déclarés. Et donc, à partir de ces appareils, ils vont pouvoir accéder en fait à des ressources professionnelles. Alors, pourquoi on encourage fortement à ce que les utilisateurs enregistrent leurs appareils pour que l'IT sache que tel utilisateur a tel appareil? Simplement pour ne pas faire un grand monde open bar où n'importe qui arriverait avec un équipement dans la zone entreprise et se brancherait partout ou n'importe quoi. Parce que du moment où au moins on sait identifier que tel utilisateur a cet appareil-là, l'appareil devient une sorte d'extension de l'identité de l'utilisateur, en fait. Donc on peut baser des contrôles d'accès par rapport à des revendications fournies ou des identités de l'appareil.
Voilà, donc il va pouvoir, en enregistrant avec le Workplace Join son appareil et puis en s'enrôlant dans Windows Intune, il va pouvoir récupérer des applications, etc. et avoir le droit d'accéder aux données internes de l'entreprise parce que l'IT connaît son périphérique, parce qu'il aura fait il aura récupéré un certificat, on aura fait le lien entre le périphérique et l'utilisateur, ce qui est aussi également une chose importante, etc. OK. On peut également, à partir de cette connaissance du périphérique, permettre l'accès au réseau interne de l'entreprise. Il y a des ressources qui sont sur le réseau interne de l'entreprise via un système de proxy. Hein. On a un produit maintenant qui s'appelle, enfin un rôle pardon, de Windows Server qui s'appelle Web Application Proxy, qui est un modeste proxy SSL web qui permet d'accéder.
Un modeste reverse proxy, effectivement.
Reverse proxy, pardon, ouais. Oui, tout à fait. Qui va pouvoir permettre à l'utilisateur d'accéder à des applications web SSL à l'intérieur de l'entreprise. Et à d'autres services basés sur SSL, d'ailleurs, comme les work folders, et donc avoir une synchronisation de fichiers entre un serveur de fichiers interne et son poste personnel. Et sans oublier qu'il reste également la solution remote desktop, hein, bureau à distance, qui, via une passerelle, également par laquelle on aura l'accès parce qu'on aura fait cet enregistrement au niveau de l'Active Directory, bon, on aura accès à des applications soit en mode remote app, soit en mode VDI, soit en mode bureau complet, etc. Donc tout ça avec une sécurité basée sur l'Active Directory qu'on connaît aujourd'hui.
Donc l'Active Directory est et demeure en fait une colonne vertébrale pour tout ce type d'infrastructure. L'identité reste le nerf de la guerre, que les applications et les données soient hébergées localement dans les data centers de l'organisation, ou à l'extérieur, dans des services de cloud, par exemple.
Donc, deuxième tableau, la distribution d'applications centrée sur l'utilisateur. Donc, le principe, on en a parlé rapidement également tout à l'heure. Donc, pour rappel, hein, on a déjà une des solutions qui existent dans les grandes entreprises qui sont basées sur System Center 2012 R2 Configuration Manager. Grâce à SSEM, on peut déployer des applications sur des postes un petit peu classique, entre guillemets, hein, des postes Windows, voire des postes Mac, OS X, etc. Et en ajoutant dans le scénario Windows Intune, on va pouvoir rajouter une possibilité qui est de déployer des applications natives, soit natives en mode side-loading, c'est-à-dire que j'ai les binaires de l'application parce que je l'ai développé en interne, par exemple, et je les porte sur le périphérique, alors qu'il s'agisse d'applications modernes Windows ou d'applications Windows Phone ou d'applications Android et autres. Ou alors des liens vers des applications des App Store publics. Par exemple, je fournis à mes utilisateurs un moyen très simple d'installer Skype, OneNote, Office pour iPad, ce genre de choses-là. Donc, des solutions Très simple et libre service, toujours pour l'utilisateur. Hein. Comme dans le slide précédent, c'est l'utilisateur qui choisit de s'enregistrer et d'installer les applications qu'on lui propose. Donc, ce qui est plutôt libérant pour ces fameux pauvres utilisateurs. Donc, un environnement unifié également pour l'administration. Donc là, on pense cette fois-ci à l'administrateur qui va, à partir de sa console d'administration unique, qui est celle qu'il connaît depuis des années, donc à savoir celle de SCCM, pouvoir gérer à la fois SCCM et Windows Intune, mais de façon complètement transparente. C'est-à-dire qu'il va pouvoir cibler des postes, qu'ils soient des postes classiques tels qu'on les connaissait depuis des années, ou les postes, les nouveaux postes mobiles. C'est à travers System Center, qui va, Configuration Manager, qui va pouvoir gérer ses applications, gérer ses devices. Et le cas échéant, s'il s'agit de distribuer une application, par exemple, pour des iPads, on va passer par Windows Intune, mais ce n'est pas l'administrateur qui va gérer cette complexité-là, ça va être automatique au niveau de System Center. Et donc, grâce à cette intégration des deux solutions, SCCM et Windows Intune, on va pouvoir gérer à la fois le cycle de vie des périphériques, mais également le cycle de vie des applications, leur mise à jour, leur désinstallation, etc.
Alors, tout ça n'est possible que grâce à un cœur, un prérequis vraiment obligatoire, qui est l'identité. Et l'identité, en fait, l'utilisateur, il est au centre finalement de tout cet ensemble, on va dire. Et il n'y a pas de débat sur le fait qu'un utilisateur il est plus productif s'il ne se pose pas de questions de chaque fois de quel est mon login et quel est mon mot de passe. Hein. Pour faire simple, je résume, mais le single sign-on est une sorte de graal qu'on essaie d'atteindre depuis des années, qu'on commence à avoir parce que la plupart des entreprises ont commencé à consolider effectivement leur base d'utilisateurs et leurs annuaires pour en avoir le moins possible, on espère aujourd'hui. Et donc, effectivement, aujourd'hui, quand on est sur un poste Windows dans l'entreprise, on se log à la plupart des ressources qui sont dans le domaine ou les domaines sans avoir à se reconnecter, y compris pour les applications web qui font l'authentification intégrée.
Si on oublie un petit peu la technique Kerberos, etc., on peut dire qu'on connaît son mail, son mot de passe, et ça suffit.
Oui, ça suffit. Donc, en fait, c'est l'identité qui est commune aux différentes applications qu'on a sur le réseau interne. On peut également la projeter à destination du cloud computing public, hein, c'est-à-dire des solutions, par exemple, de software as a service ou des applications métiers qui tourneraient dans une plateforme as a service telle que Windows Azure. Et il est possible, en fait, en projetant cette identité, donc on prend les identités, les objets utilisateurs qui sont dans Active Directory, on les synchronise partiellement vers un autre annuaire, un méga gros annuaire qui, au niveau cloud computing, s'appelle Azure Active Directory, qui est, on va dire, le pendant dans le cloud d'Active Directory sur site. On projette les identités dans cet annuaire par synchronisation. Et ensuite, l'identification, l'authentification des utilisateurs va se faire par un mécanisme dit de fédération qui vous permet en fait de garder le contrôle sur la partie identité et mot de passe, dans le sens où les secrets, les mots de passe demeurent en fait au sein de votre système d'information. L'utilisateur qui va se connecter par exemple à une application sur du cloud public, comme par exemple Office 365 ou Intune, va, lors de sa tentative de connexion, être dirigé de manière automatique sur un serveur d'authentification qui est dans votre entreprise, qu'on appelle un STS, un Secure Token Server, qui lui parlera avec l'Active Directory parce qu'il est sur le même data center, et délivrera, si l'authentification est bonne, un jeton d'accès à l'application qui est hébergée en mode SaaS ou PaaS. Donc, retenez que l'identité commune de l'accès à tous les services, c'est Active Directory, qui du coup se retrouve étendue en mode hybride avec Azure Active Directory. Donc on projette les identités au-delà du périmètre de l'entreprise, mais dans un contexte qui est complètement maîtrisé par les administrateurs. Et du coup, en fait, à partir de cette fédération d'identités, les utilisateurs pourront accéder en fait, effectivement à des services très classiques de type software de service comme Office 365 ou Intune, mais ils peuvent également accéder à des applications tierces qui ont pu être développées par des partenaires, par exemple, etc. Donc le message derrière, c'est que les développeurs doivent aujourd'hui penser pour ce monde où les utilisateurs ont plein de périphériques différents, à n'avoir qu'une seule identité, qui est cette identité fédérée, et donc à avoir des applications compatibles avec ce qu'on appelle la fédération, basiquement.
Tout à fait. Enfin, le dernier souci qu'on s'était posé au début de la présentation, c'était d'assurer la protection des informations où qu'elles soient. Sachant que l'utilisateur qui va utiliser son téléphone tiers va travailler sur des données de l'entreprise sur une machine qui est certes connue avec l'enregistrement et tout ça, mais qui n'est pas gérée par l'entreprise. Donc désolé pour cette slide qui est en anglais. Quand vous allez voir les animations qui lui sont associées, vous comprendrez que c'était un petit peu compliqué de la traduire en français. Mais bon, c'est pas grave, on va faire le tour doucement et ça va bien se passer. Donc supposons qu'on parte d'un appareil personnel sur lequel on a donc des applications et des données personnelles. J'ai mon application Allociné ou autre pour aller regarder mes films, les programmes de mes cinémas, etc., etc. Donc l'idée, c'est que je vais pouvoir enregistrer donc ce périphérique et déclarer à mon IT, voilà, à partir de maintenant, je veux pouvoir travailler sur ce périphérique. Et puis, dans un deuxième temps, je vais également l'enrôler dans le Windows Intune, donc dans le système de MDM, de Mobile Device Management, de mon entreprise. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir, à partir de l'enrôlement, installer sur mon périphérique personnel des applications et travailler sur des données de l'entreprise. Je vais pouvoir installer des applications parce que je l'aurai enrôlé dans le MDM, et puis je vais pouvoir accéder à des données de l'entreprise, aux données internes, parce que j'aurai enregistré mon appareil auprès du Workplace Join, par exemple. Et donc j'aurai accès à des données centralisées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le jour où mon appareil est soit perdu, je l'oublie dans un taxi, ou il est volé, on m'a braqué dans le métro, par exemple. Eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est réinitialiser complètement l'appareil. Donc ça, c'est la méthode brutale, à réserver vraiment dans les cas extrêmes où on sait que l'appareil est complètement perdu, volé, on n'a rien à en récupérer, donc on va l'effacer. Ça, c'est un ordre qu'on peut envoyer depuis les outils, donc soit à l'initiative de l'utilisateur, lui-même s'en rend compte et puis il va déclencher ce qu'on appelle un wipe complet, un effacement total de l'appareil, soit c'est l'IT qui va le faire pour lui. Deuxième scénario, le retrait de l'appareil. Donc le retrait de l'appareil, c'est plus subtil. C'est par exemple, je décide de ne plus utiliser cet appareil parce que je vais le revendre ou je le donne à ma fille parce que moi je change d'appareil. Ou simplement, quelqu'un qui va. Oui.
On sent le cas vécu en fait, Pascal. Pour te connaître, je sais que tu changes régulièrement d'appareil.
Exactement.
Et que ta fille est particulièrement contente d'avoir des modèles un peu plus récents régulièrement.
Tout à fait. Et autre scénario, oui. C'est l'utilisateur qui quitte l'entreprise. Il garde évidemment son périphérique personnel, mais l'entreprise va vouloir supprimer de son appareil tout ce qui concerne l'entreprise. Et donc effectivement, la solution existe dans notre solution de MDM pour ne supprimer du poste que ce qui concerne l'entreprise. Donc ça concerne les périphériques dont on parle, tablettes et autres, mais ça concerne également Windows. Les machines Surface, par exemple, sont concernées par ce genre de choses-là. Donc, même principe, hein, soit l'utilisateur, soit l'IT peut faire cette opération de retrait de l'appareil. Donc, la différence entre les fonctionnalités d'effacement complet ou d'effacement sélectif vont dépendre un petit peu de l'architecture de chacun des OS concernés. Il n'y aura peut-être pas tout à fait les mêmes comportements entre un Windows Phone, un iOS, un Android, etc., ça sera à consulter en fonction des OS. Ce qu'on peut faire également pour protéger les informations sur les postes mobiles, les périphériques mobiles, c'est déjà une possibilité qu'on a dans Windows Intune, c'est de repérer les appareils qui ont été jailbreakés ou routés. Donc c'est du bon français tout ça, mais on voit à peu près tout ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire les appareils qui ont été compromis par l'utilisateur, avec comme objectif de pouvoir installer ce qu'on veut sur l'utilisateur, faire ce qu'on veut, etc.
Principalement, en général, souvent, d'accéder à des portails, des magasins alternatifs qui ont des applications supplémentaires ou moins payantes.
Tout à fait.
Donc potentiellement des marchés, des markets qui sont beaucoup plus à risque parce qu'ils sont non contrôlés par un éditeur. Potentiellement, ils peuvent contenir des applications qui elles-mêmes ont été modifiées et sont potentiellement des nids à cochonnerie, comme on dit par chez nous.
Exactement. Donc l'IT a très envie de savoir cette information-là pour refuser l'accès aux périphériques qui auraient été jailbreakés. Alors, ce n'est pas une science exacte à 100%,
non.
Puisque tout dépend de ce que remonte l'appareil. Si l'appareil a été très bien routé, il peut toujours simuler des réponses correctes. Deuxième point, la fonctionnalité d'effacement sélectif dépend, comme je le disais, de ce que supporte l'OS, la plateforme cible. Troisième point, il en est de même pour l'effacement complet, qui est. L'effacement complet, lui, est supporté par toutes les plateformes, mais a des comportements différents. Des fois, on fera juste un reset logiciel, c'est-à-dire qu'on va enlever les applications, les données, etc. Des fois, on fera vraiment un reset d'usine sur les appareils. Ça dépend des appareils, des OS.
C'est à tester un petit peu par rapport au panel représentatif que vous pouvez avoir
Exactement.
Dans votre entreprise.
Le mieux, c'est de tout essayer. Comme je disais, donc point suivant, cela peut être exécuté soit par l'IT, soit par l'utilisateur via l'interface qu'on appelle le portail d'entreprise et qu'on verra dans un second module tout à l'heure. Et puis, les données sensibles qui peuvent... c'est une solution. Donc, le dernier point concerne une solution modérément plus sécurisée, relativement plus sécurisée, qui consisterait à n'utiliser que des applications qui manipulent des données à distance sans rapatrier les données en local. Mais on sait que c'est un petit...
Exécution d'applications et de bureaux à distance, on a juste un déport d'affichage. Maintenant, l'information, tout dépend de la longueur qu'elle a, mais si elle est visualisable sur un écran, rien n'empêche de faire une capture d'écran ou une photo de l'écran. Et donc,
l'affichage est là.
Voilà, je veux dire, rien n'est une solution 100% sécurisée et répond à tous les problèmes.
Pas de magie.
Ouais, pas de magie, exactement.
Tout à fait. Donc, si on résume ce qu'on vient de voir... Le Mobile Device Management, ça répond au problème d'aujourd'hui, hein, à savoir que des utilisateurs veulent travailler n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel périphérique, et donc utiliser des applications qui vont accéder à des données de l'entreprise. Et il faut sécuriser tout ça. Donc on veut libérer les utilisateurs, donc leur permettre de faire ce qu'ils demandent de faire. On veut simplifier la vie des administrateurs en unifiant l'environnement d'administration. Et on veut également protéger les données d'entreprise. Même lorsqu'elles se trouvent sur des périphériques non gérés, personnels aux utilisateurs.
Bien Pascal, c'était un joli petit tour un petit peu de notre solution de MDM. Si d'autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas directement à interagir avec nous via Twitter. Nos différents comptes Twitter sont Pessolière pour Pascal, Esquastana pour moi, Stanislas, et on a également Arnaud Lheureux, qui est notre troisième compère. Vous pouvez également utiser le hashtag ou le mot dièse.
Le mot dièse,
cours MVA relatif, donc du coup comme ça on le monitorera et on le verra. Et puis du coup on pourra intervenir et faire d'autres cours MVA sur ces sujets qui vous intéressent. Merci.
Merci Stanislas.